Bonjour Jean-Jacques Baudet.
Bonjour Monsieur Rivière.
Le jour de son investiture, Emmanuel Macron avait défilé dans un commande-car, un geste perçu comme symboliquement fort à l'égard des armées. Deux mois plus tard, les tensions sont fortes entre le président de la République et les armées après l'annonce d'une coupe budgétaire de 850 millions d'euros pour 2017. Est-ce que, en tant que président de la Commission de la Défense, vous défendez ce choix ?
Tout d'abord, ce sont des tensions budgétaires. Ce ne sont pas des tensions entre les hommes ni entre les objectifs.
Ça, on y reviendra, parce que de l'un peut découler l'autre.
Oui, mais il y a toujours des tensions budgétaires. Bon, il y a des décisions de prise qui ont été confirmées par le président de la République hier soir, d'une suppression de 850 millions de crédits. Il faudra le faire dans le cadre de l'exécution 2017. Mais par contre, il y a eu des annonces plus importantes concernant 2018, avec... une augmentation du budget de la défense de 1,5 milliard et le commencement d'une trajectoire qui arrivera à 2025 à 2% du PIB. Donc on va passer de 34,2 milliards à 50 milliards en 8 ans. C'est une belle progression. Maintenant, il faut voir comment on fait cette trajectoire.
Mais est-ce que ce n'est quand même pas un signal un peu étonnant de commencer en disant « on va augmenter votre budget, mais pour l'instant, on le baisse ».
Alors, il y a une difficulté sur l'exercice 2017.
Oui.
Entre ce qui a été prévu dans la loi de finances initiale qui sera tenue et les besoins réels des armées, puisque nous avons une difficulté concernant le financement des opérations extérieures, les fameuses OPEX, qui sont à hauteur de 450 millions dans la loi de programmation militaire. Le président de la République a annoncé qu'elle serait à 650 millions, donc 200 millions de plus. Mais néanmoins, les besoins de nos armées, vu leurs engagements sur les théâtres d'opération, est de 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc c'est ce delta qu'on nous demande de financer sur le budget de la loi de finances initiale, alors que ce n'était pas prévu.
Mais ces économies faites pour respecter les 3% de déficit budgétaire, elles ne pouvaient pas être réparties autrement ? On ne pouvait pas épargner le ministère des Armées ?
Alors, c'est un choix. Personnellement, je le regrette, surtout quand je vois l'explication qui a été donnée par Bercy,
oui.
Puisqu'on nous dit il faut faire 3 milliards et quelques, 4 milliards et quelques
4 milliards et demi.
D'économies, mais dans le même temps, on ouvre 1,5 milliard d'ouverture de crédit pour la capitalisation d'Areva. Donc je trouve un peu délicat de donner cette explication, et je comprends que les armées se disent, alors que nos hommes risquent leur vie tous les jours sur les théâtres d'opération. On leur demande de faire des sacrifices budgétaires, on leur demande de faire des coupes budgétaires pour recapitaliser une société qui est certes importante, mais on aurait pu trouver un autre moyen de le recapitaliser.
Ça renvoie à ma première question. Je vous demandais si vous défendiez ou si vous approuviez ce choix. Votre réponse est non.
Je me pose des questions sur ce choix. Mais
vous avez été plus explicite il y a quelques instants. Vous avez dit « je le regrette ».
Il y a nécessité, je regrette ce choix, mais ouais. Il y a quand même nécessité de tenir les 3%.
Ouais.
Et donc il faut que tous les ministères, y compris le ministère de la Défense, alors est-ce que c'est à hauteur de 850 millions ? Le débat est clos. Maintenant, il faut qu'on regarde quels seront les impacts, et j'espère qu'ils seront minima, pour les armées. Ça ne peut pas être dans le fonctionnement, ça ne peut pas être dans les équipements, même si les gros équipements peuvent être touchés. Mais dans ces choix, moi, je demande à ce que tous les équipements qui assurent la sécurité de nos soldats ne soient pas touchés. Et par exemple, le programme Scorpion, qui est en cours, il faudra à tout prix que ces financements soient assurés.
Et ça peut être où, alors ?
C'est au ministère de faire des propositions.
Mais ça sera difficile,
c'est un état-major,
si on vous entend bien.
Ça sera très délicat. C'est quand même 850 millions.
Mais oui, c'est pas rien.
Sur 32 milliards...
Alors, le chef d'état-major des armées, Philippe de Villiers, a laissé éclater... Pierre de Villiers, c'est lapsus compréhensible, puisque son frère s'appelle Philippe de Villiers, a laissé éclater sa colère devant les membres de la Commission de la Défense, que vous présidez, donc.
Plusieurs. Je ne parlerai pas de colère.
Alors, comment vous qualifiez les propos que rapportent plusieurs députés, que vous avez dû entendre, des propos très crus, je cite Pierre de Villiers, « je ne vais pas me laisser baiser comme ça ».
D'abord, je regrette que ces propos soient parus dans la presse. C'était à huis clos. J'avais demandé à tous mes collègues de tenir la confidentialité de ces propos. Si on veut, dans cette commission, que nos responsables militaires ou nos responsables politiques qui travaillent sur la défense aient un langage direct, un langage de vérité, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et je suis désolé que cette relation de confiance n'ait pas tenu. Je reprendrai un peu le discours et la pédagogie auprès de mes collègues. Pour répondre à votre question, c'est normal que le chef d'état-major pose devant les représentants de l'Assemblée nationale, les difficultés et les enjeux que nous avons par rapport à nos armées. Je le répète, nous avons 30 000 hommes qui sont sur des théâtres extérieurs ou intérieurs pour assurer la sécurité de notre territoire et de nos compatriotes et pour aider à la stabilité dans certains pays. Donc il faut qu'on soit solidaire derrière ces femmes et ces hommes qui se battent au péril de leur vie. Et nous en avons malheureusement des exemples cette année. Ça a été 11 soldats que nous avons perdus. Donc il faut qu'il y ait solidarité. Il faut que tous les autres ministères comprennent qu'il doit y avoir une priorité, une urgence à redonner à nos armées les moyens pour qu'elles assurent les missions pour lesquelles que nous avons confiées.
Vous comprenez donc ce qu'a voulu dire et l'émotion qu'exprimait à travers ce propos, encore une fois un peu cru, le chef d'état-major.
Je comprends le raisonnement du chef d'état-major, qui est un excellent officier général, un excellent chef d'état-major.
Apprécié par les armées d'ailleurs.
Apprécié par les armées et qui travaille en toute confiance avec le président de la République, avec les deux ministres de son ministère.
Alors précisément, hier soir dans un discours devant les armées, Emmanuel Macron a publiquement sermonné ou chapitré le chef d'état-major. Je considère, a-t-il dit, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef, a-t-il dit. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Est-ce que c'était meilleur moyen d'apaiser la situation?
J'étais là à ce discours. Je ne l'ai pas perçu comme un sermon vis-à-vis du chef d'état-major. Le président de la République a rappelé qu'il était le chef des armées. Ouais. C'est indéniable, c'est un rôle de la Constitution. Il a rappelé qu'il avait pris des engagements pour le budget de la défense jusqu'en 2025. Il a dit et répété que ces engagements seraient tenus. Et quand il parle de pression, c'est peut-être aussi des pressions venant de Bercy, venant d'autres collaborateurs que le chef d'état-major. Le chef d'état-major a rappelé les exigences d'aller aux 2%. C'est pas pour
il n'est
avoir...
en rien visé par ses propos, d'après vous, Pierre de Villiers.
Il faut poser la question au président de la République, mais je pense qu'il répond pas aux journalistes. Il a rappelé, le président de la République a rappelé que c'était le chef des armées et que ses engagements qu'il avait pris pendant sa campagne seraient tenus et qu'il n'avait personne, besoin de personne en tout cas, pour lui rappeler ses engagements. Donc ça ne m'étonne pas de la parole du président de la République. Et maintenant que c'est dit, j'espère que Bercy tiendra aussi compte de ses engagements et de cette parole renouvelée.
Rapidement, Jean-Jacques Bridet, Donald Trump aujourd'hui sur les Champs-Élysées pour assister au défilé du 14 juillet. Qu'est-ce que représente cette image pour vous?
Il faut la relier aux 100 ans. En 1917, c'est l'histoire, c'est l'engagement des États-Unis. Et aujourd'hui, 100 ans après, nos deux armées, nos deux pays travaillent côte à côte, se battent côte à côte pour la liberté, pour la démocratie, pour la sécurité dans beaucoup d'endroits. Donc c'est un rappel historique, mais c'est aussi le rappel de la nécessité d'une alliance entre nos deux pays, une alliance militaire, mais aussi une alliance économique, une alliance de civilisation.
Et c'est aussi de la diplomatie.
Et c'est aussi de la diplomatie. Quand deux présidents de la République se rencontrent, c'est avant tout de la diplomatie.
Parce qu'on a vu hier qu'il a été question de l'accord de Paris entre les deux chefs d'État.
Diplomatie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désaccord. Ouais. Donc il y a des désaccords, mais à chaque fois qu'il y a des
désaccords... La diplomatie est même faite pour régler les désaccords.
Il faut maintenir les liens, il faut maintenir l'amitié au-delà des désaccords, pour essayer de faire en sorte que ces désaccords s'amenuisent.
Merci Jean-Jacques Bridet. Bonne journée.
Merci Monsieur Rivière. Bonne journée.